Les informations avec Oana Favennec. Bonsoir Oana.
Bonsoir à tous. Comment éviter d'autres morts de migrants en Méditerranée? L'Allemagne et la France tentent de faire rouvrir leurs ports à l'Italie et à Malte et organiser une réunion européenne à Paris aujourd'hui. On en prendra le pouls dans un instant. En attendant, MSF et SOS Méditerranée ont affrété un nouveau bateau pour porter secours aux migrants en mer. Le sous-marin La Minerve a été retrouvé 51 ans après son naufrage près de Toulon. L'Inde veut décrocher la Lune et devenir le quatrième pays à poser un véhicule sur la surface de l'objet céleste. Et enfin, dans cette édition, nous reviendrons également sur cette profusion de plastique qui envahit le lac Léman. Il n'est pas moins pollué que la mer Méditerranée. Où pourront-ils débarquer ? Pour tenter de débloquer la situation des migrants en Méditerranée, une réunion était organisée aujourd'hui à Paris avec des représentants de l'ensemble des États de l'Union européenne. Sous l'impulsion de la France et de l'Allemagne, ils tentent de mettre en place un mécanisme qui pourrait inciter l'Italie et Malte à rouvrir leurs ports. En échange, des pays se porteraient volontaires pour accueillir rapidement les demandeurs d'asile. Après cette réunion, Emmanuel Macron a reçu les présidents du Haut Commissariat aux réfugiés et de l'Organisation internationale des migrations à l'Élysée. L'Élysée, où vous vous trouvez, Louise Baudet, bonsoir.
Bonsoir, Oana.
Il va finalement falloir attendre un peu avant qu'une solution pérenne ne soit mise en place.
Et oui, rendez-vous à Malte, à la rentrée, pour faire le point sur cette coalition de pays volontaires que Berlin et Paris espèrent former, ou comment faire à 12 ou 15, ce qui a été impossible à 28, répartir sans psychodrame les migrants qui débarquent dans les ports maltais et surtout italiens, en dépit des blocus et des coups de menton d'un Matteo Salvini. Et c'est justement là le principal problème. L'homme fort du gouvernement italien refuse tout net cette règle de répartition qui l'amènerait à rouvrir ses ports. Malte n'est pas d'accord non plus, sans oublier à l'est les éternels réfractaires à l'accueil de réfugiés, Hongrie et Pologne en tête. Résultat, seule une dizaine de pays seraient pour leur partant et surtout rien n'est pour l'instant formalisé, même si la France se dit confiante et espère que la coalition verra le jour en septembre.
Et en attendant, Louise, rien n'empêche qu'un nouveau débarquement de migrants ne devienne le nouveau feuilleton de l'été.
Oui, c'est tout le problème pour Emmanuel Macron qui, en recevant ce soir les dirigeants de l'Office international des migrations et du Haut Commissariat aux réfugiés, veut montrer qu'il se préoccupe du sort des migrants et qu'il agit au rebours de ce que dénoncent les ONG. SOS Méditerranée notamment, qui annonce la reprise des sauvetages en mer, 7 mois après l'arrêt forcé de l'Aquarius, pour pallier l'inaction de l'Union européenne. Carola Rackete, la capitaine allemande qui a tenu tête à Matteo Salvini, exhorte elle aussi l'Europe à sauver les migrants. Même Ursula von der Leyen, tout juste désignée à la tête de la Commission européenne, en a convenu récemment devant les eurodéputés. L'Europe doit reprendre les sauvetages en Méditerranée. Elle aura l'occasion d'en reparler demain avec Emmanuel Macron, qui la reçoit à déjeuner à l'Élysée.
Louise Baudet à l'Élysée avec les moyens techniques de Laurent Lucas. Pendant que les États discutent, SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières ont décidé de renvoyer un bateau en mer. Il s'appelle Ocean Viking, le Viking de l'océan, et devrait être opérationnel en août, Hugo Charpentier.
Oui, le navire a quitté un chantier naval en Pologne la semaine dernière. Ocean Viking se trouve actuellement en mer du Nord, en direction de la Méditerranée. Une coque de couleur rouge, un bâtiment d'un blanc immaculé. De l'extérieur, ce cargo ressemble à l'Aquarius, sauf qu'il est bien plus performant, explique Frédéric Pénard, directeur des opérations d'SOS Méditerranée.
Il est un petit peu plus moderne, plus rapide, permet d'avoir 4 canaux en simultané, ce que ne pouvait pas faire l'Aquarius, et c'est surtout un outil que nous avons contribué à façonner nous-mêmes. On a mis en place des modules à base de containers. Il y a un module hôpital, un module pour héberger les femmes et les enfants, pour faire face à une population qui pourrait aller jusqu'à 200-300 personnes.
L'équipage, lui, se compose d'une 20aine de marins, de sauveteurs et d'une équipe médicale sous la responsabilité d'Assibaj Sahraoui de Médecins Sans Frontières.
Nous aurons présent à bord un médecin, 2 infirmières, une sage-femme. Nos équipes médicales vont aller de soigner du mal de mer à faire des réanimations de personnes qui ont passé plusieurs minutes sous l'eau et qui sont en train de se noyer. Et une situation de détresse psychologique qui est extrêmement importante aussi.
Alors tout ça a un coût, 14 000 euros par jour. Une campagne d'appel aux dons a donc été lancée. Et puis cette question, donc toujours en suspens, comment débarquer si l'Europe n'ouvre pas ses portes ? Sophie Beau, directrice générale d'SOS Méditerranée.
Nous allons exhorter les États responsables dans cette zone à mettre en œuvre leurs responsabilités et à mettre en place un mécanisme de débarquement. C'est aux États de s'organiser, c'est aux organismes internationaux de pouvoir donner des instructions qui soient conformes au droit.
SOS Méditerranée écarte donc la possibilité de forcer un éventuel blocus au large des côtes européennes, tout en admettant que l'Ocean Viking n'est pas pensé pour tenir plusieurs semaines en mer.
Hugo Charpentier. Qui dit vrai, qui dit faux? L'Iran annonce ce matin avoir démantelé un réseau d'espions de la CIA. 17 Iraniens travaillant pour le compte de l'ennemi américain. Annonce totalement fausse pour Donald Trump. Le président américain parle de mensonges et de propagande. Le bruit des bulldozers retentit depuis 2h du matin dans un quartier de Jérusalem-Est. Une dizaine de bâtiments palestiniens sont en train d'être démolis par les autorités israéliennes. 350 habitants jetés à la rue dans un secteur sous contrôle de l'autorité palestinienne. Les Israéliens arguent de raisons de sécurité, mais ils sont soupçonnés de vouloir encore gagner du terrain. Le reportage à Jérusalem d'Étienne Monin.
Protégé par l'ombre d'un grand pin, ce que regarde ce groupe de Palestiniens, c'est la destruction de 4 bâtiments plantés au bord de la barrière de sécurité. L'ordre vient du ministère de la Défense. Il considère que ces bâtiments palestiniens situés près du mur représentent une menace. Ça n'est pourtant pas un choix, explique Jumal Darawi, responsable de la structure intercommunale pour les Palestiniens.
Ces habitants ont quitté les quartiers de Jérusalem. Ils sont venus contre la frontière. Ils ont construit parce que ça leur coûte beaucoup moins cher.
Avec cette opération, les Israéliens sont soupçonnés de vouloir étendre leur zone d'influence. Le secteur concerné est à l'intérieur du mur de sécurité, mais il est dans un périmètre contrôlé administrativement par l'autorité palestinienne. Khaled El-Khatib est maire d'une commune voisine.
Ce que font les Israéliens, c'est qu'ils essayent de fragiliser l'autorité palestinienne. Ils veulent montrer aux gens que l'autorité palestinienne ne pourra ni empêcher la destruction, ni protéger les habitants.
L'ordre de destruction a été validé par la plus haute autorité juridique israélienne. C'est la première opération de démolition lancée sur un secteur géré depuis Oslo par les Palestiniens.
Étienne Monin à Jérusalem pour France Culture. La France, via le ministère des Affaires étrangères, condamne ces démolitions qu'elle estime contraires au droit international. Un véhicule piégé a explosé ce matin près de Mogadiscio, près d'un point de contrôle sur la route d'accès à l'aéroport somalien. Au moins 17 personnes ont été tuées et 28 blessées. L'Inde part à la conquête de la Lune. Sa mission est partie ce matin pour poser un appareil près du pôle sud de la Lune. Donc, après un premier essai raté la semaine dernière, l'opération s'est finalement déroulée sans encombre, Sébastien Farcy. 3, 2,
1, 0. Le deuxième essai fut donc le bon. Après l'avortement du lancement la semaine dernière, l'énorme fusée de 640 tonnes a finalement percé les nuages du sud de l'Inde. Objectif, la Lune. C'est la plus lourde charge jamais lancée par l'agence spatiale indienne car elle transporte pour la première fois un véhicule robotisé. Cet engin à 6 roues devrait se poser vers le 6 septembre sur notre satellite et explorer pendant 2 semaines une zone de 500 mètres de long située dans le sud de cet astre, une partie rarement étudiée. Si cet atterrissage délicat se déroule sans accroc, l'Inde deviendra alors le 4e pays après les États-Unis, la Russie et la Chine à poser un tel véhicule sur la Lune. Les Indiens ont déjà envoyé une sonde sur le satellite terrien il y a 11 ans qui avait permis de prouver la présence d'eau. Ce véhicule robotisé, appelé Pragyan ou Sagesse en sanskrit, devra cette fois réaliser de plus amples prélèvements afin de connaître la composition minérale et biologique de cette partie inexplorée de la Lune.
Sébastien Farcy à New Delhi. Il avait coulé en 4 minutes, en plein exercice. L'épave du sous-marin français, la Minerve, a été retrouvée au large de Toulon, annonce de Florence Parly, la ministre des Armées. Fiona Bogadam, bonsoir.
Bonsoir.
Un jour de janvier 1968, le bâtiment s'était abîmé avec 52 hommes à son bord pour une raison inexpliquée.
La Minerve était un sous-marin d'attaque en service depuis 4 ans seulement lorsqu'il a disparu le 27 janvier 1968. Vers 8 heures ce matin-là, il émet son dernier message radio avant de sombrer en 4 minutes à peine. Pendant plusieurs jours, des recherches sont menées à divers endroits au large de Toulon. Elles sont suspendues une semaine plus tard compte tenu de l'impossibilité de retrouver des survivants. Vivants. Deux autres campagnes seront menées. La première quelques mois plus tard, la seconde après le naufrage d'un autre sous-marin de la même classe, l'Eurydice, en 1970, mais sans succès. Puis en 2018, soit 50 ans plus tard, 41 familles des 52 marins disparus demandent la reprise reprise des recherches, notamment après celles menées avec des moyens très modernes et avec succès pour le sous-marin San Juan disparu en mer d'Argentine en 2018. Fin 2018, la ministre des Armées autorise la reprise des recherches. En février, l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, cartographie la zone. Et hier, les drones ultra sophistiqués d'un navire américain ont permis d'identifier formellement l'épave de la Minerve à 45 km au large de Toulon et à 2370 mètres de profondeur. Sera-t-il possible de connaître un jour les raisons exactes de la disparition de la Minerve? Les trois morceaux du sous-marin où les lettres M, I, N sont encore lisibles devraient en tout cas rester au fond de la mer, comme le souhaitent les familles des disparus.
Fiona Mogadam. Un homme a été interpellé près de Rouen ce matin, suspecté d'avoir tué un chercheur guinéen, Mamadou Barry, soupçonné aussi par certains proches de la victime d'avoir eu des motivations racistes. L'homme originaire de Turquie avait roué de coups l'universitaire vendredi soir. Devant les enquêteurs, il a rapidement reconnu les faits. Le suspect a ensuite été hospitalisé. Sa garde à vue a été levée. Il présente des antécédents psychiatriques et est sous curatelle renforcée. Une nouvelle plainte déposée dans le dossier de la vente d'Alstom à General Electric en 2014. L'ONG Anticor soulève deux motifs, corruption et détournement de fonds publics. Le parquet national financier est déjà à l'œuvre sur ce dossier, Alstom, après le signalement du député Olivier Morlaix, qui a présidé une commission parlementaire sur la question. Bonsoir Maxime Fayol.
Bonsoir.
Au total, Anticor pointe un manque à gagner pour les finances publiques entre 350 et 500 millions d'euros.
Et pour arriver à ce résultat, Anticor pointe deux défaillances de l'État et de la justice dans ce dossier. C'est pour ça que la plainte concerne deux volets. Le premier, c'est donc la corruption. Il y a 5 ans, Alstom reconnaît devant la justice américaine avoir versé des pots de vin dans plusieurs pays. Une corruption qui, selon Anticor, fragilise l'entreprise et justifie la mise en place par l'État d'un plan de sauvetage du groupe. À l'époque, Alstom va payer une amende de près de 650 millions d'euros via une procédure de plaidé coupable aux États-Unis. Mais aucune poursuite personnelle n'a été engagée en France. Le second volet, c'est la partie détournement de fonds publics. Là, il faut remonter fin 2014, lorsque l'État cherche à prendre une participation dans Alstom pour influer notamment sur l'avenir du site de Belfort. La France se tourne alors vers Bouygues, qui est vendeur de ses parts. Le géant du BTP va alors prêter 20% des actions d'Alstom et la France aura 3 ans pour lever ou non cette option. À l'époque, c'est Arnaud Montebourg qui conclut le deal. Mais en 2017, la majorité change et c'est Bruno Le Maire qui va décider de finalement rendre les actions à Bouygues, privant la France d'une substantielle plus-value lors de la fusion annoncée avec Siemens. À l'époque, le gouvernement se justifie en expliquant que l'abandon de cette option est une condition sine qua non à la fusion des deux géants, une justification insuffisante pour Anticor vu le manque à gagner pour l'État.
Maxime Fayol. Emmanuel Macron tacle Nicolas Hulot après la publication d'une tribune de l'ancien ministre de la Transition écologique et solidaire, appelant les députés à ne pas ratifier le CETA demain en vote solennel. Quand on s'est battu pour améliorer un texte, on ne peut pas dire quelques mois plus tard le contraire. Ou alors, il fallait le dire quand on était en responsabilité. Fin de citation. Le lac Léman est envahi par le plastique. Côté suisse, des scientifiques ont embarqué sur un voilier pour filtrer les eaux de surface. Et d'après les premiers résultats, le plus grand lac d'Europe n'est pas épargné par les bouteilles de PET et les sacs plastiques. Il est plutôt noyé dedans, Jérémy Lange.
C'est jour de pêche pour l'association Ocean Eye, sauf que ses membres sont moins intéressés par les truites que par les bouts de plastique qui nagent en surface du Léman. Pascal Hagman est le directeur de l'association.
Parmi les polymères qui flottent, il y en a principalement deux. C'est du polyéthylène et du polypropylène. Ces deux plastiques qui sont plus légers que l'eau, donc ils vont flotter. Les autres, ils ont plutôt tendance à couler. Le PET, par exemple, il va couler. On a fait un échantillonnage sur une gamme de taille qui va de 1 mm à 200 mm. C'est possible qu'il y ait des objets qui soient plus petits, qu'on n'a pas attrapé, ou des objets qui soient plus gros aussi.
Ocean Eye estime à 14 millions le nombre de particules plastiques de moins de 20 cm en suspension sur le Léman, soit autant en proportion que dans les océans. Rien à voir donc avec l'image du lac de montagne alimenté par les eaux pures des glaciers. Gail Potter est le responsable scientifique de l'association.
Ceux qui avaient cette vision-là déchantent plus que les autres. Ici, il y a beaucoup de trafic aussi, c'est très peuplé. Il y a beaucoup de tourisme, il y a beaucoup de bateaux en général. On a les échouages sur les berges, on a de la sédimentation, c'est-à-dire que les plastiques vont aussi finir par couler après un moment avec des interactions avec différents organismes. Donc nous, on ne veut pas effrayer la population, mais on ne veut pas dire non plus qu'il n'y a rien.
Encore assez mal connu, la pollution plastique dans les lacs est pourtant liée à celle de la mer. Chaque année, le Rhône emporterait des dizaines de tonnes de plastique depuis le Léman jusqu'à la Méditerranée.
Jérémy Lanche, à Genève. La canicule arrive en Europe. En France, 38 nouveaux départements ont été placés en vigilance orange par Météo France, ce qui porte le total à 59. Il fera donc très très chaud ce mardi avec quelques ondées à l'ouest. Les fortes chaleurs s'étendront jusqu'au nord du pays et s'accentueront encore du centre et des pays de la Loire au sud-ouest. C'est la fin de cette édition préparée avec Jean-François Braun. Prochain journal à 22h avec Ézéchiel Fernandez.